comment l'idée est venue? L'idée, elle est venue d'abord d'un individu, qui est Jean-Claude Pinchenard, qui a travaillé 12 ans avec le Théâtre du Soleil. C'est un des premiers, avec Ariane Mnouchkine. Il a donc suivi, participé, travaillé donc avec elle depuis le début. Et longtemps, il a été satisfait de cette façon de travailler. Et puis, il a eu envie à son tour de mettre en scène, tout simplement, de créer des spectacles, d'être le responsable de la création d'un spectacle. Alors, il a déjà présenté l'année dernière, sous le nom du Théâtre du Campagnol, une pièce de Marivaux, qui était Le Triomphe de l'amour. Il y avait... Et c'était une mise en scène donc d'un texte classique sans gadget moderniste du tout, et qui avait un aspect étonnamment vivant et jeune, enfin une façon de rendre le texte classique au présent qui était très passionnante. Alors après ça, il a eu envie de faire autre chose, donc il est tombé, pour des raisons très très personnelles, sur David Copperfield. C'est-à-dire qu'à 38 ans, il s'est souvenu tout d'un coup de choses de son enfance qu'il avait bien soigneusement enfouies jusque-là. Et il s'est rappelé que c'était le thème de David Copperfield.
Je t'interromps. Est-ce que tu as le sentiment, bien sûr, je l'ai lu quand j'étais gosse et j'ai pleuré, est-ce que tu as le sentiment que dans notre culture, en France, et aujourd'hui, dans ce que tu vois à l'école, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont ou qui ont été des lecteurs de David Copperfield?
Alors, je vais te dire, les enfants, je ne sais pas. Les adultes, chaque fois qu'on parle de ce spectacle, ils font des yeux ronds et ils disent, mais pourquoi David Copperfield? Ah oui, j'ai lu ça quand j'étais petit, c'est l'histoire d'un petit garçon malheureux, etc. C'est-à-dire que tout le monde qui lit, a lu dans son enfance un David Copperfield, et un David Copperfield tronqué, raccourci, adapté aux enfants, a complètement oublié, mais se souvient quand même de quelque chose, et spécialement du petit garçon malheureux. Alors, personne ne connaît David Copperfield, en fait. Bon, mais c'est pas ça qui nous a intéressés. Je veux dire, à partir du problème personnel de Jean-Claude, donc, qui avait besoin de parler de ce livre, il a réuni une équipe donc autour de lui, de gens, comédiens du Théâtre du Soleil, des comédiens venus d'ailleurs aussi, et puis des gens comme moi qui sont à cheval sur le théâtre et sur une autre activité professionnelle. Je veux dire, il y a des lycéens, il y a un type qui est prof de maths aux Beaux-Arts, il y a des gens qui font enfin divers métiers, mais enfin plutôt intellectuels, il faut dire. Et puis on s'est mis à discuter de ce livre. Ah, on a tous commencé à pas réagir comme tous les gens à qui on en parle. Hein. C'est-à-dire, tiens, mais pourquoi David Copperfield? Bon. Alors, on en a discuté beaucoup, en acceptant au départ deux postulats. D'abord, c'est Jean-Claude qui a l'initiative et la responsabilité du spectacle. Enfin, la responsabilité, on l'a tous, mais c'est lui au premier chef, et c'est lui le metteur en scène.
Et ces deux points résultent d'un constat, parce qu'effectivement quelqu'un a pris l'initiative et porte le projet, ou est-ce que c'est au terme d'un accord, disons réflexif, tout le monde ayant fait le bilan d'un certain nombre d'expériences théâtrales, finit par reconnaître que la création collective ça va pas de soi, est-ce que c'est quelque chose comme ça?
Voilà, si tu veux, pour les comédiens du Théâtre du Soleil, c'est ça, c'est-à-dire ils ont fait l'expérience de la création collective avec ce que ça a de très... de révolutionnaires carrément, et aussi avec ce que ça a d'impossible et de bloqué quelquefois, donc ils l'ont accepté en pensant à ça. C'est un petit peu une partie de l'histoire du Théâtre du Soleil. Mais pour les autres, c'était une évidence, c'est-à-dire le projet partait de Jean-Claude, eux pouvaient y apporter beaucoup, mais c'était quand même son projet à lui. Donc là, c'est parti, si tu veux, d'un individu, et il garde la haute main, la maîtrise, c'est lui le metteur en scène. Bon. Maintenant, justement, sur la façon de travailler, c'est là que ça commence à être un peu différent d'une entreprise classique d'adaptation d'un roman. Bon, il se trouve que ces temps-ci, il y a eu pas mal d'adaptations de romans au théâtre, depuis le Germinal du Théâtre de Strasbourg, jusqu'aux paysans de Balzac montés à Gennevilliers. Et puis il y a Martin Eden par le théâtre de la Salamandre dans le Nord. Enfin, il y en a beaucoup. Ce qui est un phénomène intéressant d'ailleurs. Pourquoi on a besoin d'autre chose que des textes de théâtre traditionnels?
T'as un début de réponse à ça?
Pour l'instant, j'ai pas de début de réponse, mais je pense que la façon dont on pourra parler de David Copperfield, ça sera une réponse.
Parce que quand même, dans tous ces titres que tu cites, on est en face de grands thèmes collectifs, de grands mythes de l'inconscient collectif, s'il existe.
C'est vrai qu'il n'y a pas de texte de théâtre qui touche à ces domaines-là. C'est peut-être ça la réponse. Dire que les paysans, Germinal, à part l'adaptation absolument ridicule que Zola en a faite lui-même, il n'y a pas de grand texte théâtral qui touche ces problèmes cruciaux et vitaux. Et vitaux parce que c'est des problèmes sociaux, tout simplement, et collectifs. Bon. Alors justement, bon, là on en revient à David Copperfield. C'est un... Enfin, ça pourrait être vraiment une histoire d'un individu. Le titre, c'est le nom d'un bonhomme.
Oui.
Bon. Effectivement, c'est l'histoire d'un individu. Mais d'un individu qui regarde. Qui regarde une société, et au fond, le personnage de David lui-même dans le roman, il n'est pas passionnant. Ce qui est passionnant, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il raconte sur la société anglaise vers 1850. Alors, là encore, on pourrait se dire, mais enfin, quel intérêt de montrer en France en 1977 la société anglaise de 1850? Puis qu'est-ce que ça nous dit à nous, comédiens et autres, que la société anglaise de 1850. Et en fait, quand on cherche, quand on lit entre les lignes, ben on voit que c'est une époque d'une bonne conscience fantastique qui a posé tous les problèmes dans lesquels nous vivons maintenant. Bon, c'est une période de suraccumulation du capital, donc de bonne conscience économique pour le libéralisme absolument incroyable, enfin, quand on lit les textes, les documents d'époque. Et puis, à tout point de vue. Et c'est la morale victorienne, bien entendu, avec tout ce que ça suppose. Et nous, ça nous a intéressés parce que le livre de Dickens, c'est à la fois un exposé de cette bonne conscience. C'est-à-dire, il adhère totalement à la société dans laquelle il vit, et en même temps, une critique fantastique de cette société et de sa morale. Et une critique faite au nom des sentiments. C'est-à-dire que dans l'émotion, voir comment sont traités les enfants dans le travail, dans les écoles, dans leur famille même, ça peut être contradictoire avec la morale victorienne. Dickens décrit tout ça et le décrit avec une émotion enfin très forte qui crée une critique donc très forte aussi. Alors ça nous a intéressé de voir à la fois quelle bonne conscience il peut avoir et en même temps comment il est justement la bonne âme enfin, qui s'indigne et qui s'indigne sincèrement des conséquences d'un système auquel il adhère. Bon, et puis...
Ça doit poser des problèmes de mise en scène justement très intéressants d'avoir à montrer, à rendre visible cette contradiction entre... un discours de l'ordre du constat et de sa justification troublé par le sentiment en quelque sorte.
Oui, mais si tu veux, là où justement Dickens est très fort, c'est quand il arrive au constat, parce qu'il ne peut pas séparer le constat du sentiment. Autrement, il transforme. Quand il veut que la réalité adhère à sa morale, il la transforme de façon incroyable et on ne reconnaît plus rien. Enfin, c'est quand on la reconnaît qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas comment te dire. Au niveau de la mise en scène, bon, d'abord, il faut revenir un peu sur le problème de l'adaptation. C'est un roman qui doit avoir 900 pages à peu près. Bon, 150 personnages, enfin, c'est complètement fou. Complètement fou dans les... Il faut aussi parler des conditions de production. Bon, on a de l'argent, puisque c'est le Théâtre du Soleil qui produit le spectacle, et qui va l'accueillir à la cartoucherie. Bon, mais on est 25. Bon, avec l'argent qu'on a, on pourra être payé que pendant 3 mois de préparation. Et on prépare ça depuis déjà juin 76. pas avec une petite équipe qui s'est
étoffée.
Oui, étoffée petit à petit. Donc là, on paye les gens, mais au minimum syndical du tarif des répétitions, c'est-à-dire pas cher, ils sont tous obligés de faire autre chose à côté. Ce qui a évidemment des inconvénients, on est crevé, on a du mal à venir répéter le soir quand on a travaillé toute la journée. Ce qui a aussi des avantages, parce que ça étire la durée de préparation et ça fait mûrir des tas de choses. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir sur, on peut prendre le temps de réfléchir sur ce qu'on a fait, de critiquer, d'y revenir, de dire ben non, ça va pas, d'en reparler. Enfin, ça donne une possibilité de maturation formidable.
Est-ce que c'est ce que tu évoquais tout à l'heure en disant qu'il ne te suffisait pas d'être prof, qu'il fallait avoir une autre activité, mais qu'aussi il ne te suffirait pas de n'être que dans le théâtre et qu'il te semblait utile d'être...
En partie, oui, parce que, bon, le fait de vivre, tu vois, de vivre difficilement avec un autre travail en plus du théâtre, ça donne une richesse aussi au travail. Je veux dire que, bon, on arrive avec sa fatigue, on arrive avec son expérience, et justement, comme on parle, enfin, dans ce spectacle de fatigue et d'un certain nombre d'expériences, ça nous donne une nourriture qu'on n'aurait pas si on ne faisait que le travail de préparation du théâtre.
Mais est-ce que vous faites seulement de la nécessité une loi, ou est-ce que vous pensez vraiment sur le fond qu'il est sain, qu'il est utile, que des gens qui ont une pratique théâtrale aient par ailleurs une profession...
Si tu veux, on n'est pas tous unanimes là-dessus. Il y a des gens dans la troupe qui ne sont que comédiens et qui ne veulent être que comédiens. Bon, mais... malgré tout, le fait de travailler sur plusieurs choses, ça leur apporte aussi. Mais on est beaucoup, on est plusieurs à penser que sur le fond, effectivement, le fait de pouvoir allier la pratique artistique à une autre profession, c'est fondamental. Parce que ça donne des contraintes terribles quant à la création artistique, mais aussi une liberté qu'on n'a pas quand on est obligé, soit... Imagine dans le système actuel, enfin de courir le cachet, de faire des merdes, il n'y a pas d'autre mot, pour gagner sa vie. Enfin, dans l'argot, c'est « oui, il faut que je fasse des merdes pour le blé ». Ne pas avoir à faire ça, c'est très positif pour la création de ce qu'on fait. Et je pense que, pour moi, c'est une nécessité vertu, bien entendu, mais c'est aussi un choix de fond. Et pour plusieurs dans la troupe. C'est, si tu veux, pour essayer, ça gomme complètement la vieille division amateur-professionnel. Ça n'a vraiment pas de sens dans ce que nous faisons.
Non.
Parce que en travaillant comme ça un an et demi sur un spectacle, il est évident qu'on est 10 fois plus professionnel que des professionnels qui mettent 2 mois à monter une pièce.
Non, puis une fois de plus, c'est intéressant dans la mesure où ça rompt la barrière entre des spécialistes qui savent comment le théâtre doit être, qui sont eux les producteurs et qui s'adressent à d'autres consommateurs, à des consommateurs qui eux n'ont pas eu l'occasion ni le droit de mettre le doigt dans la machinerie,
oui.
Alors que vous êtes à la fois des consommateurs et des producteurs.
Oui, mais alors je veux même ajouter quelque chose, c'est que c'est vrai que le producteur, il a sa technique, son métier que nous n'avons pas.
Oui.
Tu vois, nous travaillons, enfin il y a les groupes de, il y a plusieurs personnages féminins, on sait déjà à peu près qui va jouer quel rôle, mais... Ça n'empêche pas qu'il y ait toujours des possibilités de remise en question. Et d'autre part, que chaque fille travaille, pas tous les rôles, mais plusieurs rôles. Ça permet à celle qui le jouera finalement d'enrichir un peu ce qu'elle va trouver. Bon, c'est vrai que pour moi, qui dois jouer dans ce spectacle aussi, alors que j'ai été embauchée comme écrivain public, enfin ça on en reparlera, moi qui dois jouer là-dedans, c'est très dur d'avoir à faire le même travail que des gens qui ont 10 ans d'expérience dans le théâtre. C'est-à-dire, j'y arrive moins, la technique me manque. Mais ce n'est pas un obstacle insurmontable.
Non,
et pour
ça.
Le metteur en scène, y a une richesse qui s'équivaut, si tu veux. Justement, récupérer ce qu'il y a de... Enfin, la spontanéité de quelqu'un qui n'a jamais joué, elle peut servir autant que la technique de quelqu'un qui a beaucoup de technique. ça passe par la maîtrise d'un certain nombre de techniques pour ceux qui ne sont pas professionnels du spectacle, ça passe par une remise en question pour les autres. Je veux dire, on s'apporte mutuellement des choses. Et tu vois, quand je te disais, oui, on est des gens assez divers, c'est vrai, là, notre dernière recrue est un retraité ingénieur qui a toujours rêvé de faire du théâtre, qui n'en a jamais fait. Bon, ben maintenant, il a le temps, on lui donne cette occasion, et il le fait très bien. Et là aussi, il a des problèmes techniques, mais qui vont se résoudre très vite.
Non, c'est ça. Il ne s'agit pas d'adopter une solution unique, professionnelle ou amateur, etc. Ça ne veut plus rien dire à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que les cloisonnements s'effacent.
Là, c'est sûr, ils s'effacent. Et justement, oui, c'est intéressant pour les deux. Je veux dire, ce n'est pas seulement une école de théâtre pour les amateurs, disons. C'est aussi une remise en question très, très vivante, enfin, et positive pour les gens du métier. Donc là, je voudrais revenir un peu à la question de l'écriture. Justement, oui. Tu en parlais tout à l'heure en disant une écriture collective, enfin, si on pouvait y arriver. Alors, c'est ce à quoi on se confronte là dans la...
Alors, raconte.
Dans la pièce. Mais c'est un problème difficile parce que moi, j'ai été embauchée donc, dans cette équipe pour écrire l'adaptation. J'ai été embauchée comme... enfin, on dit ça ironiquement, comme plaisanterie, comme écrivain public.
Mais c'est une bonne approximation.
Et c'est moi qui l'ai appelé tout de suite comme ça. Il y a un autre qui a dit méchamment la secrétaire, mais enfin, voulant être méchant, mais c'est pas si méchant que ça non plus. On a essayé donc, pendant le mois d'août, là, d'écrire déjà, d'après le bouquin, des scènes, vers une adaptation classique. Puis dès qu'on les a testées, avec les comédiens, on s'est aperçu que ça ne valait rien du tout. On le savait d'ailleurs. On voulait vérifier qu'une adaptation de roman plate, passée directement de l'écriture à l'écriture, ne pouvait pas marcher au théâtre. Bon, ça nous a confirmé là-dedans, très bien. Alors on a fait un autre travail qui était d'improviser sur le roman, avec les comédiens. Donc ils ont tous lu le roman. Enfin, on avait même eu de la peine à le faire lire à certains, ce qui est absurde, mais comme ça. Ils ont donc lu le roman et on leur a dit, voilà, réfléchis, tu es tel personnage, que fait tel personnage dans telle situation, comment il parle, comment il réagit. Bon. Alors ça donne des improvisations, donc à deux, trois, ou quelquefois un personnage seul. Bon, je prends des notes, je prends en note tout ce qui est dit, je prends en note aussi les discussions qu'on a à propos de ce qui vient d'être dit. Puisque après chaque improvisation, non seulement le metteur en scène dit « Moi, je ne le vois pas comme ça, je ne suis pas d'accord sur tel et tel point », mais tous les gens présents de l'équipe interviennent aussi en disant « Il aurait fallu pousser telle chose » ou bien « Je ne suis pas d'accord avec telle formule ». Donc là, tout le monde participe
à l'élaboration.
Alors, je prends en note tout ça et après... Jean-Claude me dit, bon, ben, on va travailler, parce que c'est quand même lui qui détermine le plan de travail. On va travailler tel personnage, telle scène, etc. On va travailler plutôt la scène du... Par exemple, il y a une scène très caractéristique, c'est le coucher de David, enfant, par sa mère. Donc elle vient le bercer, lui raconter une histoire. Alors, en faisant la synthèse de tout ça, j'ai écrit une scène. Bon, on l'a donnée aux comédiens, qui l'ont apprise par cœur et qui l'ont répétée comme une scène de théâtre et qui ont dit tiens là il y a telle chose qu'il faudrait changer. Alors on a changé et puis la comédienne qui joue le rôle de Clara, la mère, dit oh, non moi je suis pas d'accord, il faudrait changer ça, ça et ça. Et alors là, nous, enfin Jean-Claude le metteur en scène et moi l'écrivain public, nous avons dit non parce que elle a une certaine construction la scène dont nous avons besoin pour l'ensemble du spectacle. C'est une scène fondamentale, en fait, parce qu'elle pose justement la formation idéologique du petit garçon. Comment, par les histoires qu'on raconte, par le rapport qu'il a avec sa mère, le rapport tyrannique, parce qu'il est le petit homme à la maison, étant donné que son père est mort, par le rapport tyrannique qu'il a avec sa mère, donc comment se construit le rapport qu'il aura ensuite avec les femmes. Et on le verra reproduire avec sa première femme les relations qu'il avait avec sa mère. Enfin, pour nous, c'est une scène fondamentale. Donc, Là où on trouve que la comédienne dérange, enfin non pas dérange, mais démolit,
Brouille.
oui, ce qu'il y a de clair et de fondamental dans la scène écrite, on dit non.
Ça veut dire malgré tout que assez vite probablement se gèle, se fige une idée de ce que sera la pièce et que ce travail de construction collective se fait dans un champ donné. Autrement dit, vous avez une idée de ce que vous voulez faire passer, de ce que vous voulez montrer. Ça me semble, je ne dis pas ça de manière critique. Je
Oui,
voudrais
on a.
savoir quand est-ce que ça se produit, à quel moment ça se produit, à quel moment vous savez ce que vous avez envie de
Oui,
dire.
mais c'est très inégal parce qu'il y a des choses sur quoi on le sait parfaitement bien et d'autres où on ne sait pas encore. C'est-à-dire que c'est un champ ouvert. Enfin, on fait ça un peu comme du cinéma, c'est-à-dire on fait des scènes et on les montrera après. On n'est pas encore du tout sûr du montage. Ce qui est sûr, à peu près, c'est les personnages dans le roman qui nous intéressent, qui nous paraissent significatifs des rapports sociaux à cette époque-là et assez clairs pour renvoyer à notre époque à nous. Et ça, c'est sûr, le choix des personnages. Bon. Ce qui n'est pas sûr du tout, c'est dans quelle scène on les verra. Je veux dire qu'on a écrit un certain nombre de scènes qui ne seront jamais jouées, par exemple.
La
Bon.
comparaison que tu prends me semble très intéressante. Est-ce que je ne sais pas si j'ai entendu parler d'autres expériences qui se donnaient comme comparables avec le montage du cinéma. On fait des scènes et puis après on verra comment on fera le montage.
Oui, mais quand je dis après on verra, c'est vrai. Je veux dire que pour l'instant, on n'a aucune idée de. Je peux pas te dire, ça commencera comme ça continuera comme ça finira comme ça. On ne sait pas si ce sera chronologique, si il y aura un conteur ou plusieurs qui introduisent les scènes. Enfin, ça, on commence vaguement à entrevoir qu'il y en aura probablement plusieurs et que les personnages eux-mêmes introduiront d'autres personnages, enfin, d'autres scènes et d'autres questions. Mais c'est pas du tout. Dire la ligne n'est pas encore tracée parce que justement c'est très ouvert. Alors quand tu disais ça risque de figer, je te donne cette scène en exemple, celle du coucher de David, c'est une des rares qui soit proche de l'achèvement. Mais il y en a beaucoup par exemple qui étaient très achevées puis qu'on a éliminées déjà aussi parce qu'on trouve qu'elles servent à rien.
Non, ça me semble très intéressant comme démarche parce qu'elle est le contraire d'une des démarches que je critiquais dans mon topo, qui consisterait à prendre une idée abstraite, un message justement. C'est trop souvent ce qui se produit dans le théâtre politique, de type agit-prop, quoi, finalement, ni plus ni moins. On a une idée et on cherche après comment on va l'illustrer. Vous semblez partir d'un certain nombre de personnages, de thèmes, de situations. Et puis, il y a là-dedans probablement une dynamique autonome. Mais on la connaît pas bien au départ.
Non, on
Il
pourra en
faut la
parler
trouver,
après.
oui.
Si tu veux, il y a quand même, tu vois, ce sur quoi tout le monde est d'accord et ce sur quoi on est au clair, c'est que ce roman nous permet de parler, par un détour intéressant, de choses d'aujourd'hui. Et en particulier des problèmes qui sont tout à fait sur le devant de la scène en ce moment, enfin des femmes et des enfants. Et plus précisément, comment la forme d'une société, donc son économie, sa situation vraiment réelle, détermine les rapports individuels, et pas seulement les rapports individuels, mais l'intériorisation de ces rapports individuels. C'est-à-dire comment David, qui enfant a souffert d'un certain rapport entre les hommes et les femmes, adulte, reproduit exactement ce rapport. Donc, si tu veux, ça nous paraît être extrêmement actuel, ça. Mais on n'est absolument pas capable d'écrire une pièce d'aujourd'hui là-dessus, parce que c'est beaucoup trop complexe. Enfin, il faut qu'on prenne le recul. Bon. Et le recul pour en parler, ben, on le trouve à travers ce roman de Dickens, à travers l'exotisme anglais. Mais ça, on n'y insistera pas du tout. On va pas faire un truc très exotique. Et à travers justement une époque où toutes les valeurs qui restent sournoisement présentes dans notre société étaient triomphantes. Ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais tu vois, ça donne pas la forme du spectacle. Ça donne des scènes précises, comme les scènes sur l'éducation, comment on élève un petit garçon pour qu'il devienne un vrai homme en 1850 en Angleterre. Il y aura aussi l'éducation des filles en parallèle. Il y aura le passage du monde des femmes, de la petite enfance, où tout est tendresse, bonbons sucrés, etc., au monde des hommes vers 7 ans, où au contraire il faut être grossier, brutal, etc., pour être un vrai homme. Tout cela sera montré dans le spectacle.
Est-ce que dans cette élaboration, vous avez recours à d'autres, à des sources extérieures, pas tant littéraires, probablement des documents d'époque, mais aussi, est-ce que consciemment, vous faites appel, j'y pense à cause du thème que tu viens de développer, à des réflexions contemporaines, par exemple le bouquin Du côté des petites filles, qui est la démonstration de la production de la personnalité du garçon et de la fille. Est-ce que vous pensez à ça consciemment? Est-ce que vous en débattez entre vous? Ou bien est-ce que chacun porte ça dans sa tête?
Non, on apporte tout ce qu'on a dans notre tête, on apporte au débat aussi. Je veux dire, on se sert d'une masse de documents. Premièrement, tout Dickens. Parce que, ça c'est la méthode classique, c'est-à-dire qu'un auteur, on ne le comprend jamais si bien que par lui-même. Bon, et ça nous a apporté beaucoup d'ailleurs. Ensuite, tous les témoignages possibles sur la réalité qui est assez masquée dans les romans de Dickens, parce que Dickens, donc il ne faut pas oublier qu'il est optimiste, comme tout libéral du 19e siècle. Bon, donc on veut savoir qu'est-ce que c'est que cette réalité, par exemple le travail des enfants, la situation exacte des prostituées à Londres, d'où elles viennent, qui c'est, sinon des ouvrières qui ont besoin soit de compléter leur journée de travail, soit de vivre autrement parce que les métiers que pouvaient faire les filles ouvrières donc à ce moment-là, ça les tue en 10 ans. Bon, la prostitution aussi, c'est vraiment une époque terrible. Bien, tout ça, ça nous a intéressés. On s'est servi beaucoup, par exemple, du livre d'Engels sur la classe laborieuse en Angleterre au 19e siècle, parce qu'il est plein de témoignages, parce qu'il est parfaitement scientifique, et il a quelque chose de commun avec Dickens, c'est le ton, c'est-à-dire l'indignation, la passion. Et il nous a beaucoup servi. On s'est servi même des livres de Taylor, des livres de documents sur les philanthropes de l'époque, comment ils organisaient leurs usines. Enfin, on a cherché vraiment tout ce qu'on a pu, et c'est pas fini, on est encore en train de chercher, je veux dire, le spectacle commence en septembre, donc on s'est laissé du temps, tous les documents possibles sur la réalité qui est à la fois présente et cachée dans le roman de Dickens. Et puis, ce que tu disais, c'est-à-dire actuellement, ce qui nous aide à réfléchir là-dessus. Aussi bien le dernier bouquin de Foucault que le livre Du côté des petites filles. Vraiment, on fait flèche de tout bois et on se sert de tout ce qui peut entretenir, nourrir, développer notre réflexion là-dessus.
Ma question là sera peut-être un peu simpliste parce qu'elle pose le problème en termes de dilemme, donc tu seras amené à nuancer sans doute. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est de restituer la vérité de ses comportements à l'époque de Dickens ou de proposer une espèce d'illustration éclatante d'un mécanisme qui est en gros, si j'ai bien compris, celui de la transmission, de l'inculcation, de l'idéologie dominante auprès d'un enfant, de montrer ce mécanisme à propos d'un exemple situé au 19e siècle.
Les deux et tout. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est justement de n'éliminer aucun des aspects de ce travail et de l'intérêt de cette adaptation. C'est-à-dire qu'on veut garder Dickens. On ne veut pas s'en servir et dire, regardez ce niais de Dickens. On veut le garder tel qu'il est, au premier degré, avec son humour, avec les larmes. Enfin, on voudrait arriver à faire un spectacle aussi drôle et aussi émouvant que l'écriture de Dickens. Bon, et aussi farfelu. Et aussi réel. Bon, on veut garder toute la réalité sociale qui est derrière, telle qu'on a pu l'apercevoir avec les documents d'époque, sur la réalité vraiment terrible du capitalisme, vraiment le monstre qui dévore de la chair humaine. Enfin, c'est encore une expression faible quand on pense que les filles devenaient aveugles à 25 ans, quand elles avaient été 10 ans couturières en chemise à Londres. Quand on voit toutes les maladies des enfants, la mortalité, etc. Enfin bon, vraiment, on veut garder ça. le montrer d'une façon ou d'une autre dans le spectacle. Et par exemple, ça amène à une question que tu posais tout à l'heure et à laquelle je n'ai pas répondu. Comment on va traiter les personnages? C'est-à-dire qu'on va les traiter doublement, à la fois comme ils sont dans Dickens, c'est-à-dire très caricaturés, et puis à l'occasion justement d'un récit, par exemple, du fait que ce personnage peut parler d'un autre personnage, on va essayer de le remontrer dans sa réalité d'époque, et lui donner un... Bon, et que simplement le décalage entre les deux doit faire fonctionner la critique, mais là au sens dynamique, pas au sens... il ne s'agit pas de démolir Dickens du tout. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre aspect que j'ai pu oublier? Enfin, on veut essayer de garder le côté complexe et ouvert de cette adaptation. C'est vrai que notre démonstration sur la reproduction et la formation de la personnalité, on y tient. Bon, enfin, tu vois, tout y est, parallèlement, en même temps.
Et dans ce travail, vous êtes confiant ou vous avez la volonté de faire un travail qui soit socialement utile, disons, dans son aspect critique, ou bien est-ce que c'est second, ça vient un peu en surplus par rapport à vos préoccupations personnelles, au plaisir de monter cette pièce, au fait que c'est sur des thèmes peut-être assez personnels que vous êtes retrouvé autour de David Copperfield?
Oui, mais pour nous c'est évident le côté utile, tu veux.
Oui.
C'est évident, donc on n'en parle même pas. Et d'autre part, c'est d'autant plus évident que justement que 25 personnes se retrouvent au même 25 personnes, bon, de milieux assez proches, c'est vrai, petits bourgeois intellectuels, mais quand même d'horizons assez divers, se retrouvent sur les mêmes thèmes personnels, ça veut dire qu'ils ne sont pas si personnels que ça. Et d'autre part, ça coïncide, comme par hasard, enfin avec des questions qui se posent ouvertement maintenant. Donc, si tu veux, là encore, le lien entre le social et l'individuel, il est évident. C'est... On n'est pas 25 énergumènes qui ont une idée originale. On est comme tout le monde là-dessus. Est-ce que ça te paraît justement une méthode de travail originale, jamais vue, etc. Parce que nous travaillons, tu as parlé du plaisir, là, c'est vrai que nous travaillons pour le plaisir et avec plaisir, et dans notre coin, petit groupe qui vit bien et mal ses contradictions, bien la plupart du temps, et au fond on ne s'inquiète pas beaucoup de savoir si ça se fait, si ça s'est déjà fait et si ça se fera.
Mais ce qui m'intéresse dans ce que tu me dis, c'est que ça confirme certains des points que j'ai essayé de poser assez fortement, enfin, contre une démarche qui serait par trop opératoire, qui se voudrait justement trop démonstratif, trop socialement utile. Je veux dire, je crains que si on pose ces très bonnes choses en soi en premier, qu'on ne fasse pas à l'art, précisément, toute sa place, qu'on ne fasse pas au travail des formes la place qui lui revient et qui est absolument déterminante, parce que si on choisit de s'exprimer dans le langage du théâtre plutôt que dans celui de la peinture, par exemple, ou de la musique, il doit y avoir de bonnes raisons. C'est que la forme théâtrale permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire autrement. Et si on ne se préoccupe que de la chose que l'on veut dire, on risque de passer à côté de la richesse de la forme.
Alors là, il n'y a pas de risque. Parce que...
Non, mais alors, précisément, dans tout ce que tu me dis, je vois confirmer cette puissance du jeu de la forme avec sa dimension de plaisir qui me semble une garantie, et plus qu'une garantie, une nécessité pour qu'un discours qui se veut par ailleurs critique, éventuellement révolutionnaire, etc., puisse être perçu par autrui. Sinon, les slogans y suffisent.
Tu vois pourquoi on a eu besoin de recourir justement à David Copperfield et à Dickens? Parce que c'est pour nous une matière, un travail sur les formes fantastique. C'est-à-dire essayer de trouver au théâtre l'équivalent de ce que sont ces personnages de roman, ça nous fait faire un travail de transposition absolument terrible et passionnant à faire. Et c'est vrai qu'on a besoin de ce détour-là, et que Dickens nous fait travailler, parce que, bon, trouver autant d'émotions, autant de drôleries par les moyens du théâtre, et puis c'est vrai qu'on rit bien en le faisant, et je pense que les gens riront bien, et qu'on ne néglige pas du tout le spectacle, au contraire, tu vois, ça sera une pièce en costume.
Oui, ça répond aussi à une question que tu me posais en voix off là, avant qu'on commence, sur le problème de la transmission, sur le problème de l'appropriation de l'héritage culturel, la culture étant par définition bourgeoise. Avec tout ce que tu dis, tu donnes une réponse. Il s'agit bien évidemment pas de brûler les vieux livres, il s'agit d'y trouver son grain.
Et en plus, enfin, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier avec Dickens, c'est que ça a été un des premiers auteurs populaires au monde, au sens où un petit bourgeois qui réussit, et le porte-parole de toute son époque, mais pas seulement de l'idéologie dominante de son époque. Enfin, bon, là, il y a un côté unanime aussi chez Dickens qui est étonnant pour nous, qu'on a revu qu'avec Villars. C'est pas tout à fait ça qu'on cherche, parce qu'on peut pas, on sait que, bon, c'est une autre situation qui permettait l'illusion Villars. Mais ça, c'est un élément qui est entré en ligne de compte quand même.
Qui me semble important avec cette interview, avec ce débat entre Christine et moi, c'est ce qui permettrait justement de tempérer toutes les illusions que j'ai appelées opératoires, qui consisteraient à ne faire des expressions esthétiques que des illustrations d'un slogan ou d'une thèse théorique. Le combat culturel dans la lutte politique et idéologique, pour reprendre notre titre initial, c'est évidemment quelque chose qui obéit à des lois propres, et ces lois sont très très complexes. Elles mettent en œuvre des médiations qui sont nombreuses, qui s'appuient sur une tradition, sur un poids de l'histoire, sur également tous les ressorts de l'inconscient qui font que un langage est exprimé, communiqué, est perçu ou ne l'est pas à travers toute une série de médiations, de filtres qui ne permettent pas de réduire la production esthétique à, comme je l'ai dit plus haut, l'illustration d'un slogan.